Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Si Hitchcock vous fait peur, sachez qu'aujourd'hui, lui aussi a peur. Car aujourd'hui, c'est le 4 octobre 1960 et son film Psychose est sur le point d'être projeté pour la première fois à Berlin.
Qu'êtes-vous allé faire à Berlin ?
Préparer pour la sortie de mon film Psychose.
Vous n'assistez pas aux premières en général ?
Non. Parce que le film est moi.
Et ici, est-ce que vous allez assister à la première de Psychose que nous verrons, nous aussi, ici?
Non, c'est pas possible, parce que je suis très, très nerveuse.
Ça vous fait peur?
Toujours la peur. C'est la peur de moi, de toute ma vie, et cette peur est dans mes films. La peur de Hitchcock.
Never did eat your lunch, did you?
I better get back to the office. These extended lunch hours give my boss excess acid.
Why don't you call your boss and tell him you're taking the rest of the afternoon off? Friday anyway, and hot.
What do I do with my free afternoon?
Je t'accompagnerai à l'aéroport.
Oui, comme ça on pourrait rester ici un peu plus longtemps.
La chambre n'est louée que jusqu'à 3h30. Dans les hôtels de ce genre, ils ne font pas attention à l'heure à laquelle on arrive. Mais quand ils ont besoin de la chambre... Oh Sam, j'en ai assez de te retrouver dans de tels endroits.
Je connais des gens mariés qui s'amusent beaucoup de venir de temps en temps dans des hôtels comme celui-ci.
Quand on est marié, il y a des tas de choses que l'on peut faire pour s'amuser.
Attends, t'en vois que tu n'as jamais été marié.
Oh, Sam, dis-moi que c'est la dernière fois.
La dernière fois que quoi?
Que l'on se retrouve ici. Je ne veux plus te voir en cachette, dans ces endroits sordides à l'heure du déjeuner, ou à l'occasion d'un de tes voyages à Phoenix. Je ne veux plus regretter que tu sois jamais venu.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait au lieu de ça? On s'écrit de tristes lettres d'amour?
Oh, il faut que je m'en aille, ça.
Je reviens la semaine prochaine?
Non.
Même si ce n'est que pour te voir? Déjeuner avec toi? En public?
Oh, se voir, ça, je suis d'accord. Je peux même t'inviter à dîner. Mais ça n'ira pas plus loin. Tu viendras chez moi, sur la cheminée, tu verras le portrait de ma mère. Et ma sœur se fera un plaisir de faire griller un beefsteak pour nous trois.
Bonjour Nicolas Saada.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Ainsi commence Psychose avec une scène qui est à l'écoute et d'une banalité sans nom. Un couple adultère de toute évidence qui se demande comment se retrouver. Elle dit que sa mère peut leur cuisiner un steak pour trois. Qui à l'écran est complètement transgressif parce que la femme est allongée sur le lit en soutien-gorge. On voit beaucoup. Dans les deux cas, on est très loin de la fameuse scène de la douche de Psychose et l'horreur qu'on attend quand on commence à regarder ce film.
Mais c'est ce qui est extraordinaire dans Psychose, en fait. C'est comment Hitchcock fait surgir l'horreur dans la banalité, mais surtout comment la mise en scène d'Hitchcock fait un 360 degrés avec ce film. C'est-à-dire que jusqu'à ce film, tout son cinéma repose sur la séduction et sur le glamour. Et sur une espèce d'échange entre le spectateur et le film qui passe par la séduction... des acteurs et des actrices. Et là, il commence de façon très très crue. Comme si un nouveau cinéma aussi commençait avec Psychose. Et c'est en ça que c'est un film absolument fondamental, fondateur. D'abord du cinéma d'horreur américain, de ce qu'on a appelé plus tard le slasher, mais aussi d'une nouvelle ère moderne du cinéma. Et c'est pour ça que c'est un film qui, à chaque vision, me surprend toujours. Toujours, parce qu'il est effectivement, c'est l'essence du cinéma, Psychose.
Vous êtes scénariste et réalisateur, Nicolas Saada. Vous avez réalisé notamment Espion, avec Guillaume Canet et Géraldine Payat, c'était en 2009. Taj Mahal, avec Stacy Martin. Est-ce que Psychose en particulier, et Hitchcock en général, a une influence sur votre travail?
C'est-à-dire que Hitchcock, c'est sans doute le cinéaste qui m'a fait comprendre la première fois ce qu'est la mise en scène. Et la mise en scène, c'est la manière qu'on... de déployer quelque chose à l'écran, parfois avec très peu de moyens et très peu d'éléments. La force d'Hitchcock, c'est de créer le suspense ou l'angoisse ou l'inquiétude avec des dérèglements. Une image peut en suivre une autre, puis une nouvelle image apparaît, et là, on ressent une angoisse qui est indicible et qui est simplement due à la lecture qu'on a de la nouvelle image par rapport aux précédentes. C'est extraordinaire. Hitchcock, c'est extraordinaire parce que c'est un langage de cinéma, comme je disais, pur. Il vient du muet Et en cela, moi, je trouve que c'est un cinéaste vers lequel je cesse de revenir parce que j'ai toujours quelque chose à apprendre de lui. Par exemple, dans le cas de Taj Mahal, le film se passe dans une chambre. Pendant 50 minutes, on est enfermé dans cet espace clos. Et si j'avais pas révisé mon Hitchcock avant de tourner Taj Mahal, je suis pas sûr que j'aurais trouvé les moyens de renouveler en permanence ce que j'avais à montrer. Et la force d'Hitchcock, c'est sa manière de déployer des choses à l'écran, comme je disais, avec très peu d'éléments. Et dans Psychose, on atteint un point de sophistication quand même incroyable par rapport à ça.
Plus que dans d'autres films.
Je prends juste l'exemple du tout début du film. Il y a une ellipse absolument saisissante. L'héroïne qui est interprétée par Janet Leigh est donc cette femme qui, comme vous l'écriviez tout à l'heure, rencontre régulièrement un homme marié, en tout cas en train de divorcer à l'heure du déjeuner. Elle travaille dans une agence immobilière, elle a une vie assez chiche finalement. Et sur un coup de tête, elle décide de voler de l'argent à son patron. Et il y a une ellipse, comme je disais, saisissante dans le film, parce qu'on découvre qu'elle a volé l'argent une fois l'argent volé. Et ça passe par une série de plans sur une enveloppe dans laquelle il y a cet argent liquide. Et cette enveloppe, elle scelle le destin de ces jeunes femmes. Et c'est une enveloppe avec de l'argent liquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle avalanche de moyens pour essayer de susciter chez un spectateur de cinéma une forme d'émotion, de réaction à ce qu'il regarde. Quand on voit l'économie moyen d'Hitchcock et comment il arrive à vous saisir, saisir votre regard, juste par l'agencement des plans et par aussi l'utilisation de la musique, c'est là qu'effectivement on réalise qu'il psychose, même par rapport au film précédent d'Hitchcock, qui est La mort aux trousses, qui est un film très spectaculaire.
Parlait lundi dernier.
Ouais. C'est un film totalement minimaliste et qui, même s'il est minimaliste, déploie toujours quelque chose de nouveau et quasiment métaphysique à chaque scène.
Métaphysique ?
Ah oui, je trouve qu'il y a un moment dans le film où Janet Leigh part sur la route sous la pluie en voiture. Nous-mêmes spectateurs, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on se perd avec le film, on se perd dans le film, et notre état de spectateur est synchrone avec l'état du personnage. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que le film va nous mener ? Et je l'ai revu là récemment dans une très grande salle parce qu'il est passé à la Philharmonie de Paris avec un orchestre qui accompagnait les images. Et c'est une salle où il y a beaucoup de monde quand même, la salle de la Philharmonie. Le public était absolument saisi, pas médusé, saisi par ce qu'il voyait.
Vous avez parlé de film pur à propos de Hitchcock. Figurez-vous que lui-même emploie cette expression dans un de ses entretiens avec Truffaut de 1963.
Oui, c'est vrai, oui.
Écoutez.
I must say,
je dois dire,
for the work within the film and its effect on the audience,
que le travail dans le film et pour son effet sur les audiences,
my main satisfaction,
ma principale satisfaction a été
that film,
que le film
did something to an audience,
a fait quelque chose à une audience.
Oui. I don't care about the subject matter,
le sujet m'importe peu,
I don't care about the acting,
le jeu m'importe peu,
but I care,
mais ce qui
about
importe
the
pour moi, c'était les morceaux de film et la photographie
and everything that it contained from the technical aspect,
et tout ce qui était contenu au point de vue technique,
could make an audience scream,
pouvait faire hurler une audience.
And in many ways,
et en beaucoup de manières,
I feel,
je sens
my satisfaction
que
with
ma satisfaction
our art,
avec notre art,
achieve something,
a accompli quelque chose,
mass emotion,
d'une émotion de masse.
It was pure film.
Ce qui les a émus, c'était le pur film.
Oui, c'est vrai.
That's why my only pride in
that's
the picture.
That's why. C'est pourquoi ma fierté dans ce film.
Picture belongs to
et que ce
us,
film
you and I.
Nous appartient à nous, vous et à moi.
Alfred Hitchcock sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Vous aurez reconnu la bande originale de Psychose, réalisée par Bernard Herrmann. On est en compagnie du réalisateur Nicolas Saada. Hitchcock disait à François Truffaut, le sujet ne m'importe pas, les acteurs ne m'importent pas, la seule chose qui compte, c'est la photographie et la technique.
Mais, Psychose, c'est une expérience de cinéma très irrationnelle. C'est un film devant lequel on n'a pas de... Moi, je peux pas raisonner quand je vois le film. Je peux pas dire pourquoi elle fait ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il se passe ça. C'est-à-dire que le film est une expérience tellement brute. L'échange entre ce qui se passe sur l'écran et le spectateur va au-delà des codes même du cinéma populaire.
Alors comment il l'obtient?
Il y a pas d'empathie. Il y a pas la question de toutes les règles qu'on essaie d'enseigner dans les écoles de cinéma sur les trois actes. Il faut être très proche des personnages, il faut de l'empathie, il faut suivre les personnages jusqu'au bout. Il y a aucune règle rationnelle de la narration cinématographique, je dirais populaire, qui est respectée dans Psychose. C'est un film complètement expérimental. Et il est hypnotique. C'est un film qui vous saisit dès la première image et vous n'essayez pas d'interpréter, de comprendre, de décrypter ce que vous regardez. Vous le recevez comme vous écoutez de la musique, en fait. Et c'est en ça que c'est un film très musical et très composé. Et Hitchcock, c'était un orchestrateur de l'image. Pour lui, chaque plan était une note de musique et que chaque scène devenait une espèce de morceau de musique où les plans sont orchestrés en fonction de ce qu'il veut produire sur le spectateur. Donc il n'y a plus aucun filtre entre le film et le spectateur avec Psychose. Il y a le sentiment de voir quelque chose qui échappe même à l'analyse. Moi, c'est un film qui, à chaque fois que je le vois, je ne sais pas quoi dire ou faire en sortant. C'est juste, c'est un flux de cinéma pur.
Mais vous dites, c'est comme une mélodie. Ce serait comme une mélodie visuelle alors. Les plans seraient des notes.
Complètement.
Et l'agencement des plans produirait cette mélodie qui fait qu'on est happé comme quand on est happé en écoutant du Mozart ou
du Beethoven.
Une mélodie, voilà.
Mais c'est intéressant ce lien entre la musique et le cinéma. Il y a le monteur de Coppola, Walter Murch, qui a donné une conférence à la Cinémathèque il y a quelques temps et qui a dit l'inventeur du cinéma c'est Beethoven. Alors si on est un peu chauvin, on peut se dire non, c'est Lumière. Mais quand on écoute Walter Murch, on dit il a sans doute raison. C'est-à-dire que dans la musique, il y a quelque chose qui sans doute intuitivement nous préparait au cinéma. Les rythmes de la musique, les constructions de la musique, le mouvement de la musique. Il est cinématographique avant même le cinéma. Il illustre des images qu'on ne voit pas encore. On peut dire que le cinéma, c'est un art de visionnaire, c'est un art de voyant aussi. Et je connais des cinéastes qui, même moi ça m'arrive, qui cherchent des images en écoutant de la musique. La musique les aide à trouver des images ou les aide à trouver des agencements de plans. Dans le cas d'Hitchcock, je pense que c'était clair qu'il était absolument fou de musique, fou d'art visuel. Et que souvent, il trouvait une inspiration à ses films, soit dans la peinture, soit dans la musique, soit dans les deux. Il écoutait beaucoup de musique. Et il y a quelque chose de l'ordre du voyant quand on fait des films. Il faut anticiper ce qu'on va filmer, il faut l'imaginer. Et quelquefois, pour l'imaginer, pour l'anticiper, pour le rêver, ou pour le cauchemarder, dans le cas de Psychose, la musique est absolument essentielle.
Mais dans ce cas, comment expliquez-vous que les compositions de Bernard Herrmann, qui accompagnent beaucoup de ses films, ne soient pas redondantes? Si le film est déjà une musique, pourquoi y rajouter une autre musique assez
insistante? C'est un accord parfait, Hitchcock-Herrmann. Hitchcock, c'est un puritain. Donc Herrmann déployait dans sa musique ce qu'Hitchcock retenait dans ses images. Puis à un moment donné, où il y a une synchronicité absolue entre deux, c'est effectivement la scène de la douche. Où là, l'image et la musique sont, je dirais, raccords. Et il y a une colère d'Hitchcock qui s'exprime en même temps que la colère d'Herrmann.
Alors on va y venir, la scène de la douche, pas tout de suite, parce que dans le film ça arrive à la 40e minute, je crois. Enfin, ça n'arrive pas tout de suite. Et justement, je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur ce début. On a entendu la première scène. Le début a ceci de très déstabilisant, qu'il n'entre dans aucun code. Et même au-delà de ça, qu'il propose une image de la femme qui est assez atypique. On est en 1960. On apprend dès la première scène qu'elle a une relation clandestine. Qu'elle va voler de l'argent, 40 000 $. Ce qui après n'aura plus aucune importance, hein, d'ailleurs. C'est le fameux MacGuffin dont parlait Hitchcock, un prétexte à une histoire. Et enfin, avant d'arriver au motel où se passera le reste de l'histoire, elle conduit sous la pluie de nuit pendant de longues minutes. Il y a quelque chose de complètement novateur, là.
Ben, on peut se demander si finalement la modernité du cinéma américain, elle commence pas avec ça. Avec l'idée qu'il faut accorder la liberté à un personnage féminin. Et de ce point de vue-là, Psychose, regardez les personnages féminins des films importants du cinéma américain après Psychose. Regardez Wanda. Ben Wanda, elle prend la route hein, dans le film, ce film magnifique. Il y a un des premiers films de Coppola, Les gens de la pluie, où une femme prend la route. Il y a Alice n'est plus ici, de Scorsese, où une femme prend la route. Donc finalement, il y a une intuition de la part d'Hitchcock, qui dit qu'à un moment donné, le cinéma doit être moderne quand il accorde la liberté de bouger à un personnage féminin quand il la sort de son emploi ou de son stéréotype. Sauf que là, la société américaine, elle corrige ça assez violemment, assez brutalement.
Bah oui, elle va
Mais c'est très
pour
intéressant
ça.
Pour ça. Le film est une... Il y a certains analystes d'Hitchcock qui ont dit que c'est son premier film 100% américain. C'est pas fou.
Il y a Alors plus rien d'anglais. Hollywood depuis 1940,
oui, il y a plus rien d'anglais dans Psychose. Il y a plus rien d'anglais. Je veux dire, il y a des plans de Psychose. On est en plein désert sur la route. On se croirait dans un road movie de Wim Wenders 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que d'un seul coup, il ouvre son cinéma à des paysages qu'il a jamais filmés, à des gens qu'il a jamais filmés, à un univers qu'il a jamais filmé, et il l'assume totalement parce qu'il le dit lui-même, c'est un film expérimental. Au point où il sait qu'il prend un tel risque en le faisant, qu'il dit au studio, ne me payez pas, en tout cas payez-moi peu, et je vais prendre l'équipe avec laquelle je fais d'habitude des films de télévision pour tourner le film. Donc il le tourne dans les conditions d'un film de télévision, en très peu de temps, avec une équipe réduite. Ce qui donne à ce film sa singularité même dans le parcours d'Hitchcock, et sa force, et effectivement son caractère complètement inactuel.
Quand le personnage principal féminin arrive finalement dans ce motel, dont elle découvre l'identité à travers son pare-brise rempli de gouttes d'eau et les essuie-glaces qui font apparaître vraiment de manière très lointaine le mot écrit motel qui fait figure de sauveur pour elle, puisqu'elle est en course-poursuite avec elle-même, enfin contre le reste du monde, de peur qu'on la rattrape. Elle s'installe, elle rencontre le tenant de l'hôtel qui est très sympathique et qui lui propose de lui offrir à dîner. Elle est trempée, elle n'a pas dîné et elle reste dans sa chambre. Celui-ci va prévenir sa mère à l'intérieur et voici la scène qu'elle entend, ce qui produit le premier vrai malaise du film.
No, I tell you no. I won't have you bringing strange young girls in for supper. By candlelight, I suppose, in the cheap erotic fashion of young men with cheap erotic minds.
Mother, please.
And then what? After supper, music? Whispers?
Mother, she's just a stranger. She's hungry and it's raining out.
Mais maman, je ne la connais même pas. Comme si c'était une raison pour que tu ne la désires pas. Je ne veux pas parler de ces choses dégoûtantes qui me répugnent. Tu m'as compris? Maintenant, va lui dire qu'elle ne calmera son horrible fracas ni avec ma nourriture, ni avec mon fils. Préfères-tu que ce soit moi qui aille lui dire, puisque tu es trop lâche pour le faire? Hein, mon garçon? Avoue que tu n'oses pas.
Oh, tais-toi, tais-toi!
Des ennuis, il me semble.
Non. Maman, enfin, ma mère est... Quelle est l'expression? Elle n'est pas aujourd'hui dans son état normal. Tout est pour vous. Moi, je n'ai pas faim. Vous mangez comme un oiseau.
Et vous êtes expert.
En réalité, les oiseaux ne m'intéressent pas tellement. Ma passion à moi, c'est de les empailler. Énormément de personnes empaillent les chiens et les chats. Moi, je suis contre. Je crois qu'il n'y a que les oiseaux qui supportent d'être empaillés, parce que, même vivants, ils ont un côté passif.
C'est un passe-temps surprenant.
Et les oiseaux empaillés, c'est pourquoi ça?
They're kind of symbols of.
C'est un espèce de symbole.
I remember the time I had some thoughts about that.
Je me rappelle qu'au moment j'avais des pensées sur ce sujet.
There was taxidermy involved.
Taxidermie.
In relation to his mother's body.
C'était par rapport au corps de sa mère, évidemment.
What he'd done with his mother, you know, he was
a,
he was that. But then birds have other symbols around that.
Ont un autre sens symbolique.
Area.
Dans ce domaine.
The owl and the.
Il y a la chouette.
I think they belong to an area of.
Ils appartiennent à un domaine de.
Watchers.
Les surveilleurs, si vous voulez dire.
Maybe in terms of his own masochism.
En termes de son propre masochisme.
He knew them. He knew
Il
they watched him.
Il savait que les oiseaux le regardaient.
I think that his own guilt thing.
Sa propre culpabilité.
Reflected itself in the symbols of the birds.
Dans les symboles des oiseaux.
Who were looking and looking all the time.
Qui continuait constamment à le surveiller.
That's why his own mother was full of sawdust.
Et c'est pourquoi sa pauvre mère était pleine de paille.
Oui. Et d'ailleurs, vous lui aviez donné des regards d'oiseaux un peu, Perkins.
I'll ask him about that next time I meet him.
Je vais lui demander la prochaine fois que je le rencontre.
Quand Hitchcock parle des oiseaux, c'est fascinant et presque encore plus glaçant. Nicolas Saada, dans l'extrait qu'on a entendu, on découvre la voix de la mer. On parlait de l'importance du son et de la manière qu'a Hitchcock de filmer comme une mélodie. Chant, ouais. Voilà, là on ne voit rien, on entend tout et on est très mal à l'aise. Alors qu'évidemment, si c'est la première fois qu'on voit le film, on ne sait pas ce qui se passe.
Oui, et donc on ne sait pas ce qui se passe, mais on sent que quelque chose ne va pas. Et c'est tout le génie d'Hitchcock, c'est dans cette manière que ce que je disais tout à l'heure, de dérégler les choses, c'est-à-dire de construire par exemple une séquence toute banale de dialogue entre un homme et une femme autour d'un sandwich et d'un verre de lait, et de petit à petit la styliser au point où on ne sait plus vraiment ce qui va se passer, et on passe de ce sentiment de banalité à un sentiment d'inquiétude absolue et irrationnelle. Et quand on commence à regarder les détails, on les voit partout. Le détail de décor, par exemple, dans les chambres du motel de Psychose, il y a des dessins d'oiseaux accrochés au mur. Mais dans l'endroit, dans le petit bureau où il y a les oiseaux empaillés et où Anthony Perkins reçoit Janet Leigh pour lui proposer de dîner, il y a deux tableaux. Quand on voit le film au cinéma, c'est encore plus frappant. Il y a deux tableaux qui montrent vraiment une agression sexuelle. De petites gravures du 19e siècle. Très violente, très brutale. Alors quand on ne connaît pas le film, quand on ne connaît pas son sujet ni même l'histoire, je pense qu'on peut prêter attention ou pas à ces tableaux. Mais quand on a déjà vu le film et qu'on le revoit, alors là on est juste saisi. On se dit en fait, inconsciemment, on a déjà enregistré ces images quand on voit le film la première fois. On les anticipe pas forcément.
On va être un peu obligé de révéler ce qui se passe.
Mais effectivement, il y a quelque chose qui est posé par Hitchcock qui fait que le spectateur enregistre des choses, parfois malgré lui, qui lui permettent ou d'anticiper ou pas les choses. Mais ça fait partie de sa stratégie de mise en scène. Et avec Psychose, il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire qu'il y a la mise en scène ne parle qu'au spectateur, en fait. Il n'y a même plus de... C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a même plus de séduction.
Il n'y a plus de séduction.
Il n'y a pas de séduction. Enfin,
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que le film ne passe... C'est ce que je dis. Quand vous pensez à La Mort retrouve, vous pensez à Eva-Marie Saint, vous pensez à Cary Grant, vous pensez au glamour, vous pensez à la couleur, même dans Vertigo.
On a Janet Leigh, quand même, voilà. c'est pas mal.
Janet Leigh, en 60, c'est une actrice qui a tourné avec Wells. Je dirais, elle n'est pas catégorisée cinéma d'auteur, mais c'est quand même une actrice qui a déjà pris des risques, qui appartient à un cinéma qui est plus aventurier qu'Eva Marie Saint, qui essaie de devenir une actrice de studio, même s'il vient de tourner avec Kazan. Donc, le film repose sur des acteurs qui sont connus du public, mais il cherche pas à séduire le public. Il cherche à vraiment le communiquer avec lui très directement à travers cette construction qui est par bloc, en fait, qui est un premier bloc qui est complètement centré sur Janet Leigh, puis un deuxième bloc qui amène le spectateur vraiment ailleurs, qui le perd. C'est un film qui perd le spectateur, parce que pas sans en révéler...
On va être un peu obligé d'en parler quand même.
Il y a un moment donné où le spectateur se retrouve seul dans le film. Ouais. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que il a un début de processus d'identification avec un personnage qui semble être le personnage principal. Et après, le film se dérobe sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire que voir le film, que regarder le film. C'est en ça que je trouve que c'est un film très, très saisissant et musical et moderne.
Il le perd. Mais il le tient.
Il le tient parce qu'il le perd. C'est un film absolument
un peu pervers,
fondateur du cinéma contemporain et moderne. Et c'est tous les cinéastes aujourd'hui ont une dette envers Psychose, que ce soit les cinéastes de films d'horreur, le réalisateur de Get Out, Jordan Peele, a autant une dette envers Psychose que les frères Coen. C'est vraiment un film très très important dans l'histoire du cinéma, pas seulement américain, dans l'histoire du cinéma tout court.
Peu de temps après la scène que l'on vient d'entendre, va arriver une autre scène qui, elle, est célébrissime, restée dans l'histoire du cinéma comme une scène clé, fétiche même, qui a été énormément analysée, commentée, regardée. On va l'entendre ensemble, parce que c'est assez intéressant de voir ce qu'on entend de cette scène quand on ne la voit pas. C'est la scène dite de la douche, à savoir qu'une fois que le dîner a eu lieu, Janet Leigh, Marion dans le film, retourne dans sa chambre et prend une douche. Et là, alors qu'elle est sous la douche, on voit une silhouette qui qui s'approche d'elle alors qu'il y a un rideau transparent évidemment qui la protège de l'extérieur puisqu'elle est, elle est nue sous la douche. Le rideau s'ouvre, on voit un couteau qui s'enfonce dans la chair de Marion, on voit plusieurs coups de couteau, plusieurs plans. Enfin, on va revenir sur l'aspect visuel, mais voilà ce qui se passe, c'est une scène de crime. Voilà ce qu'on entend à l'écran. La descente des cordes vers le grave qui indique que le corps est en train de perdre vie, Nicolas Saad. À l'écoute, c'est ce qu'on entend. Quand on regarde la scène, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on assiste à une expérience qui est complètement déconnectée entre la main, le geste fait par l'assassin, donc il tend le couteau vers le corps de la femme, le bruit qui est censé représenter le bruit de la lame dans la peau qui n'est pas du tout réaliste, le peu de sang qui s'écoule, le fait qu'on ne voit aucune plaie, tant de plans différents. On garde de cette scène un souvenir absolument glaçant, mais quand on la regarde, on dit que rien ne tient en fait.
Oui, mais la force d'Hitchcock, c'est que ça tient quand même. Enfin, moi je trouve que ça tient toujours. Il y a plusieurs paradoxes, hein. De toute façon, le premier paradoxe, c'est que quand on entend Psychose, on voit, et quand on regarde Psychose, on a plutôt tendance à l'entendre.
C'est vrai.
Et ça, c'est en ça que c'est un film absolument mais incroyable. C'est-à-dire que c'est un film qui est une expérience audiovisuelle pure, dont il est difficile de séparer le son de l'image. Mais quand on le fait, bah, si on regarde cette scène sans son, on l'entendra, parce qu'on en aura un souvenir, ou bien on se dira, il manque quelque chose, et quand on l'entend,
on la voit immédiatement.
Donc c'est le plus beau des compliments qu'on puisse faire à Psychose. Et ce que vous dites de la scène est juste, mais en même temps, là où on est dans le cinéma pur, c'est que ce qu'on voit pendant cette scène de la douche, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas l'écrire, on peut difficilement le raconter, on ne peut que le voir. Donc, il n'y a que le cinéma qui peut le raconter. Et on voit qu'on ne voit pas. Mais c'est le génie d'Hitchcock.
On ne voit pas, encore une fois, pas une plaie, on voit un ventre, alors qu'elle est nue, mais on ne voit rien d'autre.
On voit un peu de sang, effectivement. On voit un peu de sang,
mais
on sent quelque chose qui est... C'est une intrusion. C'est une intrusion.
C'est peut-être ça qui fait le plus peur, d'ailleurs.
Et c'est ça qui fait très peur. C'est que c'est une intrusion dans ce qui est un moment, je dirais presque de pureté. En tout cas, Hitchcock l'avait entendu comme ça, c'est que pour lui, ce moment de la douche, pour Marion, c'était un moment où elle avait décidé de revenir sur sa décision, de rendre l'argent qu'elle avait volé, de sortir du piège dans lequel elle commençait à s'enfermer, de faire même des petits comptes pour savoir combien de temps il faudrait pour restituer une partie de la somme. Et donc cette douche, elle lui permet de souffler, mais entre guillemets, de se purifier, de passer un moment intime avec elle-même où elle peut enfin... se calmer. Et c'est absolument l'inverse qui se passe, quoi. Il y a cette intrusion et du son et de ce meurtre et de ses yeux. Enfin, c'est très effrayant, les yeux de l'assassin dans Psychose. On voit les yeux de l'assassin. C'est des yeux qui sont entourés d'ombre. Enfin, on voit vraiment pas le visage de l'assassin, puisque le film d'Hitchcock repose sur la révélation finale, donc on peut pas voir son visage. Mais là où le film il est étonnant, c'est qu'il y a cette expression un peu idiote qu'on voit sur les affiches de films dans la rue. C'est un film qui fait du bien. Je déteste cette expression, cette idée qu'un film doit faire du bien.
Mais remboursé par la sécurité sociale.
Et c'est-à-dire qu'il y a des films qui font du mal. J'en sais rien. On peut pas dire que Psycho est un film qui fait du bien, mais en tout cas, il provoque quelque chose qui est indicible du cinéma. C'est-à-dire que il y a qu'au cinéma qu'on peut ressentir ce moment que vous venez de décrire de l'intrusion de la violence dans cette espèce d'espace de banalité qui est décrit par Hitchcock, en plus avec assez peu de détails. Hein. Et là où le film bascule, c'est parce que cette violence, elle est tellement échevelée, théâtrale, qu'elle, comme je vous le disais tout à l'heure, elle perd le spectateur. Le spectateur se dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, si Hitchcock ne s'appuie pas beaucoup sur des détails entre guillemets gore, c'est parce que aussi il est face à un autre gros problème, c'est la censure. Et il a passé son temps à défier la censure avec Psychose, tournant des choses qu'il n'a pas retenues au montage, laissant croire aux censeurs qu'il retirait des plans tout en les gardant. Il a été un stratège aussi de la communication sur ce film. C'est en ça que le cinéma entre dans une nouvelle ère avec Psychose, c'est que le metteur en scène se met au premier plan pour à la fois défendre son film, pour le faire exister, et pour communiquer directement avec le spectateur, comme je disais, sans passer par le fil traditionnel des acteurs, de la promotion avec les acteurs. Il dit, vous allez aimer ce film parce que c'est un film. Vous allez aimer ce film parce que vous allez avoir une expérience de spectateur que vous n'aurez pas chez vous devant une télévision et que vous n'aurez nulle part ailleurs.
Il avait interdit au cinéma de laisser entrer les retardataires à la
voilà,
séance.
Voilà, et il avait refusé de montrer le film à la critique qui ne voulait pas que la critique révèle la fin du film. Donc il y a quelque chose qui se met en place avec ce film, qui est ce rapport comme ça direct entre un cinéaste et le spectateur.
Et pourquoi avoir multiplié les plans de cette scène de la douche? Il y en a plus de 40, je crois, voire une soixantaine. Hein. Ça a pris une semaine de tournage, qui dure 40 secondes.
Parce que justement, il ne pouvait pas filmer la nudité frontalement, parce qu'il ne pouvait pas filmer les coups de couteau entrant dans le corps de Janet Leigh. Donc il doit tout suggérer. Et pour suggérer, il faut découper. Donc plus on découpe, moins on voit. Ouais. Donc là, c'est alors c'est oui, on peut jouer sur les mots en anglais. Monter, c'est to cut. Donc là, c'est un exercice de montage au sens littéral du terme, quoi. Et effectivement, quand on commence à regarder de très près chaque photogramme du film ou chaque image du film, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais un plan où on voit le couteau rentrer dans le corps de Janet Leigh. Mais en même temps. Encore aujourd'hui, je peux vous dire que dans une salle de cinéma, les spectateurs sont juste médusés par ce qu'ils regardent. Et c'est un moment, on parlait de musique tout à l'heure, c'est un moment musical. C'est un moment, effectivement, de dérèglement. Et aussi, c'est un moment où le tempo du film s'accélère à un point qui est vertigineux.
Il y a l'irruption des cordes stridentes. Voilà.
Et les cordes qui accompagnent.
De l'assassin qui arrive et ces cordes qu'on entendra par la suite à nouveau quand il y aura un autre meurtre.
Ça devient la signature de l'assassin, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a un motif qui rentre dans le film, qui est celui donc du meurtre, qui est celui de ce couteau et qui devient aussi un motif musical, qui est cette répétition d'accords de cordes très, très strident et qui a aussi marqué l'histoire de la musique de film. Ça, beaucoup de musiques de film après Psychose ont emprunté à ce motif.
Et qui est très proche du cri, d'ailleurs, parce qu'on se souvient des cris des héroïnes Hitchcockiennes. Il y a toujours un moment où la blonde placide va hurler parce qu'elle découvre un corps mort ou elle manque de mourir, etc. Elle a les cordes mimes, ce cri-là.
Et puis c'est un film en noir et blanc.
Ouais. Ce qui est, alors qu'on est en 60.
Oui, en 60, oui.
Et pourquoi?
Parce que là encore, Hitchcock se dit, si même pour montrer à l'écran le sang qui s'écoule dans la baignoire, il prend un risque en tournant en couleur. Ça fera beaucoup de rouge à l'écran. Donc il part du principe que la censure, et peut-être même le public, acceptera davantage du sang noir que du sang rouge. Donc tout ça est très réfléchi de sa part. Mais au-delà de la malice, il y a ce qui décrit à Truffaut. Il y a l'idée d'essayer de faire du cinéma pur. L'idée de créer quelque chose qui puisse être à la fois expérimental et universel.
Après, une fois que le corps de Marion, qui a essayé de sortir de la douche, se soit effondré sur le sol, à moitié dans la baignoire, à moitié sur le sol. La caméra va filmer l'œil de Marion. D'abord, elle part de l'évacuation d'eau qui tourne dans un certain sens. Puis l'œil de Marion, on voit que finalement la caméra tourne dans l'autre sens. Et de cet œil, elle va se déplacer pour aller d'abord filmer l'enveloppe avec l'argent. sortir par la fenêtre et montrer la maison où se trouve l'assassin présumé à ce moment-là. Dans ce mouvement de caméra, Hitchcock ici s'adresse directement au spectateur et lui donne un indice qu'on n'est pas du tout en mesure de comprendre, mais qui crée un certain malaise, qui fait que quand le tenant du motel revient, découvre le corps et commence à nettoyer, on est encore plus mal à l'aise quasiment que pendant la scène de la douche.
On est d'autant plus mal à l'aise qu'on s'aperçoit que cet argent n'a aucune importance.
C'est ça, c'était pas ça le sujet, c'était voilà. Ce qu'on appelle un rang rouge, voilà, c'est ouais, ça, ouais, la ouais, fausse alors. Piste.
Mais c'est en ça que c'est une expérience très irrationnelle, la psychose, parce que le film commence comme un film policier, comme un film noir, avec une femme qui est en faute, qui fuit son employeur, qui a volé de l'argent, donc on est dans la culpabilité, dans le vol, dans toutes les figures du cinéma noir américain des années 50, et d'un seul coup, on bascule dans quelque chose qui n'est pas explicable et qui n'est pas rationnel. Et là, effectivement, dans ce moment-là, quand on voit que l'argent n'est pas l'objet ni l'enjeu de ce qui vient de se passer, là,
on a vraiment peur.
On se dit, tout peut se passer alors. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout peut se passer. Et c'est en ça que le contrôle d'Hitchcock sur le spectateur, il est absolu. C'est vraiment le film où je crois qu'il est au sommet absolu de la maîtrise. D'ailleurs, le film d'après, c'est Les Oiseaux, qui est un film que j'adore, qui me fascine totalement. Mais il fait revenir du filtre, c'est-à-dire que il y a une histoire sentimentale, il y a une très jolie comédienne, il y a un semblant d'argument. Enfin, il n'y a pas cette idée d'un film qui est juste une expérience, quoi. Et Psycho, c'est une expérience.
Une fois que le corps aura été recouvert et qu'il aura été, évacué hors champ pour de bon, puisqu'il est mis dans une voiture qui elle-même va couler au fond de l'eau, il va y avoir une enquête, puisqu'on va s'inquiéter de la disparition de cette personne, de Marion. Un détective va arriver, sa sœur, etc. Le détective, alors qu'il mène son enquête, va pénétrer dans la maison qui est au milieu du motel, ce qui va donner lieu à une autre scène absolument glaçante. C'est la deuxième scène de meurtre, qui est associée cette fois-ci à un escalier. Et une fois qu'on a vu cette scène, alors d'abord quand on voit le film, on a peur pendant un moment de prendre sa douche, et après de monter des escaliers tout simplement, parce que c'est vraiment quelque chose de traumatique hein, qui s'inscrit dans la mémoire visuelle du spectateur. Je vous propose qu'on l'écoute, parce que cette fois-ci, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme la douche, hein, mais comme la scène de la douche, il y a une montée musicale ponctuée par les cris stridents finales et cette chute du corps du détective qui vient d'être assassiné. Une chute très bizarre, on a l'impression qu'il redescend les escaliers en marchant avec la tête face caméra. Hitchcock s'en explique juste après, donc l'extrait, puis explication d'Hitchcock.
Give you the suspense
tous les
of
éléments.
That detective walking up the
qui
stairs.
Qui allait vous donner le suspense de ce détective monter l'escalier?
Had gone before.
Avait précédé.
Therefore.
Par conséquent.
It needed a simple statement.
Il y avait besoin d'une déclaration toute simple.
You needed to show.
Il vous fallait montrer.
Stairs.
Des escaliers.
And a man going up the stairs.
Et un homme qui monte les escaliers.
In a very simple way.
D'une façon très simple.
And when he got near to the top step,
et quand il s'est rapproché de la dernière marche,
I deliberately placed the camera high.
J'ai délibérément placé la caméra
very
très
high.
Haut.
I used the high shot.
Je me suis servi
so
également
that you shot
de la prise
down
haut
on her head.
Pour qu'on it, voit en bas sur sa tête, pour qu'on la regarde en bas.
Did not look as though I were trying to avoid showing her.
Ça n'avait pas l'air que j'évitais de la montrer.
But the main reason
mais la raison principale
of going very high
d'aller pour aller très haut
was in order to get the contrast of the big head as the knife came down.
Était afin d'avoir le contraste de la grosse tête alors que le couteau s'abattait.
It was music, you see.
C'était de la musique, vous voyez.
The high shot with
la
the violins going
avec des violons qui faisaient
and suddenly
et soudainement
ta-da!
Du Tada de Hitchcock au cri des violons. On dirait qu'il y a des vrais cris derrière les violons, hein, Nicolas Sada. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on entend des cris, hein, ça c'est sûr.
Mais c'est pour avoir écouté, entendu la musique jouée par le Britten Symphonia il y a 15 jours. Non, c'est juste
Que des cordes.
Que des cordes, mais c'est ce qu'avait dit Bernard Herrmann à Hitchcock. Il a dit, tu as fait un film en noir et blanc, je vais te faire une musique en noir et blanc. Mais du coup, la richesse des cordes, enfin, on sait depuis l'équateur de Beethoven, la richesse harmonique des cordes, elle est sans fin, comme la richesse harmonique du noir et blanc.
Et Hitchcock dit lui-même que c'est cet aspect-là qui fait la scène que l'on vient d'entendre. Hein. C'est la musique, dit-il.
Oui, et la musique des images.
Et la musique des
c'est
images.
En ça que ça, ouais. Ce qui est absolument génial chez Hitchcock, et je le dis d'autant plus que, à l'aune de ce qu'on voit dans le cinéma aujourd'hui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a une telle peur d'ennuyer qu'on accorde une importance à tout dans les films d'aujourd'hui. Parfois, dans certaines grosses productions américaines, on a l'impression que c'est un char d'assaut pour écraser un moustique. Quelqu'un va répondre au téléphone, il faut le suivre en plan séquence, montrer le téléphone, la main, prendre le téléphone, on va au vis... Enfin, il y a une absence totale d'économie qui fait qu'on a l'impression de toujours regarder la même chose. On va pas d'hiérarchie entre ce qu'on regarde. Hitchcock, c'est quelqu'un qui a toujours su hiérarchiser l'image. Donc effectivement, ce qu'il explique, c'est que il vaut mieux commencer une scène de façon banale, de manière à la basculer, et du coup, de sentir la différence entre un découpage qui est banal, un découpage qui ne l'est pas. C'est en cela qu'il a vraiment un sens musical, et du découpage et des plans. Et c'est ce qu'il explique, c'est que je préférais que la scène commence avec le détective qui montait les marches de façon assez posée, pour tout à coup casser ce rythme-là, et provoquer l'effroi et la surprise du spectateur. Mais pour casser un rythme, il faut créer le rythme. Donc Hitchcock là-dessus, c'est un maître de ça, c'est un maître des rythmes et sa manière justement aussi de dessiner toute la première partie du film, tout ce qui se passe dans le bureau entre Janet Leigh, son employeur, sa copine secrétaire, tout ça est filmé mais de façon extrêmement banale, comme dans un téléfilm d'Hitchcock des années 50. Mmh. Du coup, on est en territoire connu, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais dès qu'on sort de ce territoire connu, la moindre sortie de route, si je puis dire, devient exceptionnelle. Donc tout devient de l'ordre de l'événement. C'est ça qui est très fort dans le Psycho, c'est que chaque fois qu'on sort de ce qu'il racontait de façon banale, ou je dirais ordinaire, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'événement. Et c'est un événement. Enfin, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le film, c'est de l'ordre de l'événement. C'est unique. Et c'est propre à ce qu'on regarde. Et c'est en ça que c'est pour moi un film qui compte énormément.
Et c'est pour ça que lorsqu'Hitchcock le décrit en disant « Tada !», c'est exactement ça. Et même la scène du meurtre du détective, c'est que la caméra est une vue de haut, comme
en
ça,
plongée.
On voit en plongée. Et c'est vraiment tout d'un coup, tada, rupture de rythme, l'assassin sort et tue le détective. Il surgit de nulle part, c'est pas derrière le rideau de douche, c'est pourtant dans une salle qui est juste au-dessus de l'escalier. Hein. Mais l'irruption est telle que c'est la même surprise en fait.
Et là où il est encore plus fort, c'est que quand on passe à travers ces deux scènes, la douche puis le détective dans l'escalier, Hitchcock sait que le spectateur va garder en mémoire ce moment-là. Que c'est comme un acouphène visuel, c'est-à-dire qu'on garde le bruit de la scène encore dans la... Donc il peut se permettre de ralentir le rythme à nouveau, de rentrer dans des scènes de dialogue, d'être plus explicatif, parce qu'il sait que le spectateur est toujours sur la mémoire vive de ce qu'il a vu. Ça, c'est ça le génie d'un cinéaste.
Et il sait qu'il y en aura une troisième.
Voilà, le génie d'un cinéaste, c'est ça, c'est savoir doser, hiérarchiser l'information et l'émotion, fatalement.
Oui, parce que vous disiez, c'est une question de mélodie, mais aussi beaucoup de rythme, là.
Oui.
C'est ces deux moments-là qui établissent de telles scansions qui fait qu'au moment où un autre personnage féminin va descendre dans la maison et découvrir la mère du tenant de l'hôtel et que le siège va se retourner, qu'on va se rendre compte que cette mère n'est plus ou qu'elle n'a pas l'apparence qu'on pensait qu'elle allait avoir, on entend les mêmes cordes et c'est presque comme un troisième meurtre d'une femme qui est déjà morte depuis bien longtemps.
Oui, c'est construit comme ça pour Hitchcock. C'est vraiment la dernière scène qui à la fois... clôt le film et le clôt sur une image qui est très très puissante quand même, qui donne l'impression que Anthony Perkins sort du corps, enfin que sa mère accouche une deuxième fois de lui, parce que bon.
Vous pensez à quelle scène là ?
Bah, je pense à la toute fin, c'est-à-dire que quand Perkins apparaît avec les vêtements de sa mère et une perruque, John Gavin, l'acteur qui joue Sam et qui est mort d'ailleurs la semaine dernière, apparaît, l'empêche évidemment d'assassiner Vera Miles, et tout est très 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 chorégraphié, théâtralisé, c'est-à-dire que rien n'est réaliste et c'est pas grave, on est au cinéma, donc la perruque tombe et le corps, la chemise blanche de Perkins émerge de la robe. On a l'impression qu'il sort vraiment de nouveau du corps de sa mère. C'est comme un, comme une deuxième naissance. Et c'est à la fois, c'est aussi la mort du personnage. C'est sa mort psychique, clinique, absolue. Et c'est une image très, très forte. Encore une fois, c'est la force d'Hitchcock. Et je crois que c'est la force du cinéma américain. C'est que, c'est américain n'a absolument pas peur de la métaphore.
Et il y a une différence entre cinéma américain
non,
et
le reste. Non, je pense qu'Hitchcock, il s'est senti très, très heureux dans le cinéma américain, parce que le cinéma américain n'a pas peur de la métaphore. Il n'a pas peur de l'allégorie. Si une image fait référence à l'image, le symbolisme dans le cinéma américain n'est pas un problème.
On lui reproche beaucoup pourtant, oui, ici en France.
Alors que dans le cinéma européen, c'est toujours un problème. Ouais. Et que les cinéastes symbolistes européens, il n'y en a pas, finalement pas beaucoup dans l'histoire du cinéma. Peut-être Dreyer. Il y a des liens d'ailleurs entre Dreyer et Hitchcock. Hein, il y en a beaucoup. Ils ont même travaillé avec le même chef opérateur. Mais le cinéma américain permet à Hitchcock d'être symbolique. Et d'être dans une image qui peut à la fois décrire une situation et la symboliser. Et ça, c'est la force du cinéma américain, parce que comme il a très peu de mémoire, le cinéma américain, comme il repose sur l'histoire d'un pays qui est tout frais, il s'invente ses propres mythes, et du coup, les mythes s'inventent au fur et à mesure des films. Et en ça, le cinéma américain, il est passionnant.
C'est pas le cinéma américain qui a peu de mémoire, c'est le pays à la limite. Mais oui,
quand on fait du cinéma dans un pays qui a peu de mémoire, on peut-être qu'on prend plus de risques. Je sais pas. En tout cas, Hitchcock, on voit bien que son cinéma, quand il est en Angleterre, et c'est moi, j'adore les films anglais d'Hitchcock, ce sont des films qu'il faut redécouvrir. Mais c'est un cinéma très social. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le petit peuple, les gens dans les pubs. On voit vraiment toutes les catégories sociales dans le cinéma d'Hitchcock anglais. Puis à partir des films américains, il y a de moins en moins de discours social. Et puis au bout d'un moment, il n'y en a plus du tout. Et du coup, il commence à faire des films qui ressemblent à de la peinture, à du dessin. Et là, avec Psychose, on atteint un sommet, quoi. C'est un film qui est, même pour l'époque, totalement inactuel. C'est-à-dire que si le film tient la route, c'est parce que je pense que beaucoup de cinéastes américains, peut-être dans les années 60, avaient envie d'être un peu sociologues, voulaient montrer ce qu'était une femme au foyer, l'arrivée des frigos, l'arrivée des téléviseurs. Il n'y a pas vraiment une description puissante du quotidien dans Psychose. Même si, comme je vous dis tout à l'heure, le milieu que décrit Hitchcock, la première fois qu'il le décrit, ce milieu assez banal, c'est même pas les petits bourgeois, hein. Mais il n'y a pas une description de la modernité, de l'Amérique ou des éléments qui faisaient sa différence, avec l'Europe. Donc, le film tient le coup aussi à cause de ça. Il est complètement inactuel. Et je crois que c'est la force des grands films. C'est justement d'être moderne sans avoir éprouvé le besoin d'être contemporain. Et c'est un film qui vieillira à cause de ça, toujours aussi bien.
Peut-être aussi parce qu'il s'ancre, il pénètre au plus profond d'une intimité psychique. Une clé de lecture du film quand même si c'est extrêmement réducteur, c'est la folie, c'est la schizophrénie. Quand on se rend compte que c'est le même homme qui joue sa propre mère décédée et évidemment lui-même, et qui à la fin, la toute dernière scène du film pour le coup, s'adresse à lui-même et à la mère qu'il y a en lui, on comprend que c'est la folie le moteur de tout cela, mais finalement c'est presque secondaire en fait. Mmh. C'est une explication qui ne gâche pas le film, enfin qui.
Truffaut était effaré par l'explication finale de Psychose. Il trouvait que le film se termine sur une longue explication du cas Norman Bates
par un
psychiatre. Donc c'est un monologue qui est filmé en plan séquence pendant trois bonnes minutes au moins. Et Truffaut trouvait cette conclusion, cette explication ridicule, et il avait cette phrase dans la correspondance, il disait, je trouve ça ridicule, mais si Hitchcock le met là, c'est qu'il le faut pour le film. Donc il trouve ça ridicule, et en même temps il trouve ça essentiel. Mais c'est un des paradoxes du cinéma de Hitchcock, c'est par moments, Hitchcock n'a pas peur de... On parle souvent du sens de l'humour d'Hitchcock, on peut en parler dans Psychose, c'est un film qui parfois... devient presque une farce. Et quand on le voit dans une salle avec beaucoup de spectateurs, il y a des rires nerveux aussi qui accompagnent la projection. Parce que Hitchcock joue aussi sur nos nerfs. Et il aime aussi jouer sur des registres qui sont plus du tout les registres du genre du film d'horreur. Le film, par moment, est très très étrange. Cette séquence dont on parlait tout à l'heure, entre Norman Bates et Marion, dont je vais parler, Janet Leigh, elle débouche quand même sur cette réplique très étrange de Norman Bates. Le meilleur ami d'un homme, c'est sa mère.
C'est sa mère.
Je pense que Hitchcock, il, il filme cette scène et qu'il tient à cette réplique parce qu'il a sens de l'humour et parce que il nous prévient quelque chose. Il nous dit, franchement, si un jeune homme aussi séduisant qu'Anthony Perkins face à Janet Leigh lui dit ça, préparez-vous au pire. Et ça, c'est l'humour du film aussi.
Vous vous souvenez de la toute dernière scène et des derniers mots, sans doute, Nicolas Saada. Je vous propose qu'on les écoute en cette fin d'émission et prêtez attention aux derniers mots, justement.
It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now, as I should have, years ago. He was always bad.
Il a toujours eu un mauvais fond. Et je sais qu'il avait l'intention de leur dire que j'avais tué ces jeunes filles et cet homme, alors que je ne fais rien d'autre dans la vie que de rester assise tranquillement, l'œil fixe, comme un de ces oiseaux qui l'empaille. Ils savent très bien que je ne peux même pas bouger un petit doigt et que je ne le veux pas. Je ne vais pas faire un geste, je vais rester calme, au cas où ils me soupçonneraient. D'ailleurs, je suppose qu'ils me surveillent. Eh bien, qu'ils me surveillent. Ils verront quelle sorte de femme je suis. Je n'écraserai même pas cette mouche. J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront et ils comprendront. Et ils diront, elle n'aurait pas fait de mal à une mouche.
N'aurait pas fait de mal à une mouche, dit celui qui vient d'assassiner deux personnes le temps du film. Un grand merci à vous, Nicolas Saada.
Merci à vous.
De nous en parler aujourd'hui de Psychose. Donc, je renvoie à vos films. Peut-être que maintenant qu'on vous a entendu parler de Psychose, on aura un autre regard sur vos films. Espion et Taj Mahal. On mettra évidemment les films en lien sur notre site internet. Sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est grand temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, vous partez d'un point de départ qui est lié à l'actualité. Et aujourd'hui, c'est une mode qui a retenu votre attention.
Oui, c'est une drôle de mode en ce moment en philosophie et plus largement dans les sciences humaines, la mode des chiens.
C'est vrai.
Alors pas celle qui consiste à étudier les cyniques, ni celle qui consiste à parler des animaux et à prendre les chiens comme un exemple parmi d'autres. Évidemment non plus pas celle qui consiste à amener son chien en cours. Non, une mode qui consiste à prendre pour objet d'étude les chiens en particulier. Alors pourquoi cette mode ? Alors c'est vrai, vendredi 16 février, le nouvel an chinois fêtait le passage à l'année du chien. Mais cela suffit-il à expliquer que le chien sera au programme d'un colloque international les 14 et 15 juin prochains à Braga, au Portugal, intitulé « Chien imaginaire, littérature, cinéma, bande dessinée » et que trois livres portent récemment sur le sujet, deux déjà parus, l'ouvrage collectif « La science humaine entre parenthèses des chiens » et « Hurler avec les chiens » de Xavier Gauthier et le troisième à paraître « Chien, une philosophie » de Marc Alizard, que vous allez recevoir, Adèle, bientôt. Alors, pourquoi cette mode des chiens ? Pourquoi un tel attachement aux chiens en sens humaine ? D'autant que ce n'était pas vraiment gagné.
Qu'est-ce qui m'a déplaisant chez ces bêtes ? Ça n'a pas été un calvaire. Je supporte. Qu'est-ce qui m'a déplaisant ? J'aime pas les frotteurs, déjà. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. J'aime pas ça. Un chien, c'est autre chose, alors, ce que je reproche fondamentalement aux chiens, c'est d'aboyer. Quoi. L'aboiement m'apparaît vraiment, mais le cri le plus stupide. Quoi. Dieu qui a des cris dans la nature, il y a une variété de cris. Ben, l'aboiement, c'est vraiment la honte du règne animal.
L'aboiement ou la honte du règne animal, vous l'avez reconnu, c'était Gilles Deleuze dans son abécédaire à la lettre A comme animal. Et ce dégoût de Deleuze nous permet d'envisager une première réponse à la question « Pourquoi cette mode des chiens ?» Celle, déjà, première réponse de l'attachement ou du détachement affectif. Et oui, tous ces projets canins s'enracinent dans un sentiment. Marc Alizard, par exemple, veut comprendre la joie des chiens. Cette joie malgré leur vie de chien, où il fait tout le temps un temps de chien et on meurt comme un chien. Tout part au contraire d'une phobie pour Xavier Gauthier dans son livre « Hurler avec les chiens », c'est la cynophobie. Et si l'on se penche sur d'autres penseurs qui parlent chien, eh bien c'est la même chose. Par exemple, Schopenhauer et son amour pour son caniche, Atma.
ou la cyberféministe Donna Haraway qui ouvre son manifeste des espèces de compagnie en racontant comment elle embrasse à pleine bouche sa chienne Madame Cayenne Pepper. Non, pas d'air de dégoût, Adèle. C'est un très beau.
Je trouve ça absolument dégueulasse, mais continue.
Plus qu'un attachement ou rejet, la curiosité scientifique pour les chiens semble naître au plus profond de soi. Les chiens touchent l'intimité et plus que la question animale qui relève tout aussi bien de l'éthique, du droit ou de l'altérité, les chiens semblent ici révéler, s'identifier, se confondre même avec quelque chose d'humain.
Il est con ce chien là.
Niam niam, Didier.
Bon, il est où ce con de chien là maintenant?
Il peut pas rester là, votre ami, sur le palier.
Oui, oui, non, mais c'est pas mon ami. C'est...
Oui, oui, non, mais il gratte.
Mais pourquoi vous grattez? La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré.
Jean-Pierre, c'est sûrement très clair pour toi, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien?
Après Gilles Deleuze, Alain Chabat et son film Didier, où vous vous rappelez, Didier, donc, un chien, prenait le visage et le corps d'un homme, tout en restant un chien et tout en étant traité, au moins au début, et puis on l'a entendu dans cette bande-annonce, comme un chien. Soit l'illustration parfaite de la relation et la fusion humain-canidé, et l'illustration aussi de la manière dont l'un, l'autre peuvent s'éclairer et se réfléchir. Car c'est aussi une question d'image, de signes et de symboles. Et c'est une deuxième réponse à pourquoi cette mode des chiens? Ce que l'on fait dire aux chiens et ce qu'ils disent révèle ainsi de nous. Comme par exemple Cerbère, le monstre à trois têtes de chien pour dire une fascination morbide. La dame au petit chien de Tchekhov ou le chien des Baskerville de Doyle pour dénoncer les vices ou le trop-plein de morale de la bourgeoisie. Chien blanc de Romain Gary évidemment pour évoquer la violence et le racisme. Et puis Snoopy, les 100 dalmatiens pour l'innocence, etc., etc. Et puis, il y a aussi des vrais chiens. Alors pas seulement donc des chiens de fiction, mais des chiens qui ont tout autant peuplé notre imaginaire.
Ici Constantin, Jarné Court qui vous parle de Moscou. En cette dernière journée de célébration du 40e anniversaire de la Révolution, on attend impatiemment à Moscou de connaître le sort du plus fameux petit chien du monde, Laika, qui à bord du Spoutnik numéro 2 fut le premier être vivant à franchir les limites de l'atmosphère terrestre.
Alors Laika, je veux dire, c'est ma préférée, c'est la plus aventurière, mais la plus inaccessible aussi. D'elle, on ne peut rien dire, car on ne sait pas vraiment la suite. Enfin, si on peut dire qu'elle est morte 7 heures après le lancement de stress et de surchauffe. Et elle est quand même plus qu'un signe des penchants, attachements, tendances humains, plus qu'un symbole. Laika, c'est l'héroïne tragique qui résiste à l'identification des hommes, celle qui oblige à trouver une place particulière aux animaux. Et alors, c'est ma troisième réponse pour expliquer cette mode des chiens. Ces animaux, les plus proches, les plus domestiqués, sont aussi les plus résistants aux hommes et c'est ce qui les rend fascinants.
Merci Géraldine pour cet hommage à Laika et à tous ces chiens qui accompagnent nos histoires depuis toujours.
Notre imaginaire, notre quotidien.
Donc, vous nous conseillez de lire des ouvrages sur les chiens.
Voilà, donc,
en ce moment.
Donc, Hurler avec les chiens, c'est de Xavier Gauthier. C'est paru aux éditions de Paris, Max Chalel. La science humaine des chiens, sous la direction de Véronique Servet, aux éditions du Bord de l'eau. Il y a Marc Alizard, que vous allez bientôt recevoir, Adèle.
Le vendredi 16 mars.
Voilà, au Salon du Livre.
En direct depuis le Salon du Livre.
Qui fait paraître Chien, donc, aux éditions PUF. Et puis, il y a donc ce colloque international le 14 et 15 juin prochain, si vous allez au Portugal, à Braga. Donc chien et imaginaire, littérature, cinéma, bande dessinée.
Bon, il nous reste à faire une semaine sur les chiens. Je ne sais pas si je suis prête. Je vais réfléchir.
Au moins réécouter peut-être l'émission Schopenhauer aussi.
Et amoureux de son chien, de son caniche. Vous avez raison. Merci Géraldine. Votre chronique canine à réécouter sur le site du journal de la philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzinkan qui est à la prise de son. Demain, vous retrouverez vous-même Géraldine Mosna-Savoie, c'est vous qui animerez l'émission demain et vous recevrez Lydia Goehr, c'est ça ? Pour son livre Le musée imaginaire des œuvres musicales.
Et on va parler philosophie de la musique et de l'œuvre musicale.
Eh bien, ce sera en cohérence parfaite avec cette émission en compagnie de Nicolas Saeda. Si vous voulez réécouter d'ailleurs cette émission, c'est très simple. Vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des chemins vous donne également rendez-vous sur les comptes Facebook et Twitter de l'émission. Nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc, en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.